France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Arunda Tiroy. J'ai lu Mon Refuge et mon Orage, et je l'ai lu non pas comme un récit, mais comme un roman où on croise une foultitude de personnages. Et comme un roman, parce que je crois que j'ai été aussi impressionnée par votre trajectoire de vie qui finalement est complètement romanesque.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comment être la fille de cette mère ? Le foisonnant et merveilleux nouveau livre de la romancière indienne Arunda Tiroy semble explorer les moindres recoins de cette question. Cette mère, divorcée au milieu des années 1960 à l'irascibilité d'un gangster, au génie déchaîné, cette mère dont la brutalité égale la générosité, le courage militant, les sautes d'humeur. « J'ai quitté ma mère pour continuer à l'aimer », affirme l'écrivaine dès les premières pages d'un livre qui effectue le trajet dans les deux sens, la quitter pour de bon, puisque la mère est morte, la retrouver pour de bon en écrivant sur elle. Si tous autant que nous sommes avançons composés d'une soupe vivante de mémoire et d'imagination, alors il y a dans ce livre une impressionnante quantité de vie. Arunda Tiroy est de passage en France à l'occasion de la traduction de son nouvel ouvrage. Elle est l'invitée de votre book club. On finira avec Raphaël Bott en parlant d'un roman pour adolescents qui s'appelle La Nuit Bleue. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour, Arunda Tiroy. Mon refuge et mon orage, c'est le titre de la traduction française de votre roman. Traduction signée Irène Margy pour les éditions Gallimard. Bienvenue à vous dans le Book Club. On est très heureuse, heureux, honorée aussi de vous compter à cette table. Bonjour Marguerite Capelle, c'est vous qui allez interpréter les propos d'Arunda Tiroy vers le français. Merci beaucoup d'être là. Salut Marguerite. Il y a dans ce livre, Mon refuge et mon orage, mention de la lecture de vous en tant qu'enfant. Vous dites « Rien ne me faisait oublier le monde » comme la lecture. Est-ce que c'est une bonne manière pour vous de décrire le début de votre vie de lectrice? Parce que ici, au Book Club, on commence toujours comme ça, en parlant des vies de lecteurs et de lectrices de nos invités. Est-ce que c'est une bonne manière de dire que c'était d'abord pour vous l'oubli du monde?
Hello and thank you.
Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission.
Yes, I think, this really is a book about.
Oui, c'est vraiment un livre qui parle de la lecture, de l'écriture et du cadeau qu'est la littérature. Un cadeau que ma gangster de mère m'avait fait.
You know, I grew up in a very small village.
J'ai grandi dans un tout petit village du sud de l'Inde, du Kerala, où il n'y avait pas de magasins. Il n'y avait pas non plus de bibliothèque. En fait, il y en avait beaucoup dans l'état du Kerala. Par contre, des bibliothèques, ça a été vraiment l'état numéro un en pointe sur la littérature en Inde. Mais là où on vivait, non. Donc tous les trois mois, on commandait dans un autre état trois ou quatre cartons de livres qui nous arrivaient d'une bibliothèque et qu'on devait lire pendant cette période. Et pour moi, à mesure que la vie autour de moi devenait de plus en plus étouffante, c'était la littérature qui me remplissait et qui me vidait aussi. Et dans toute cette colère et ce côté imprévisible de la vie et de ma mère à l'époque, elle me lisait des livres malgré tout quand j'étais jeune et plus tard j'ai lu par moi-même. C'était intéressant parce que la littérature a toujours été une bande-son et en même temps aussi quelque chose que je lisais sur la page. Il y a quelque chose d'auditif aussi pour moi et quand j'écris, c'est de la même façon. Il y a une dimension audio, sonore. Mais lire des mots qui n'avaient rien à voir avec mon univers et qui en même temps m'apprenaient tellement de choses, c'était quelque chose qui augmentait ma vision du monde, qui me permettait de comprendre plus largement ce qu'était le monde au-delà de mon village. J'ai lu beaucoup de Shakespeare, en particulier petite, beaucoup de Kipling. Ce sont des écrivains qui, comme on le sait, ont aussi justement cette dimension sonore, une rythmique. Écouter Shakespeare, qu'il m'était lu avant même moi de pouvoir lire, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je vivais dans un village. Mais notre famille, c'était des gens cosmopolites qui avaient été brisés par la vie et qui s'étaient tous retrouvés dans ce petit trou perdu et qui avaient rapporté la littérature avec eux. Donc j'ai grandi avec ce cadeau-là. même s'il y avait beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas un cadeau dans mon enfance.
Mais vous dites, la lecture, c'était à la fois ce qui me nourrissait, me remplissait et me vidait. Pourquoi est-ce que la lecture vous vidait, Arundhati Roy?
Parce
que quand je parle de vider, ce que je veux dire, c'est que c'était une façon de se débarrasser de toute cette peur, de ce sentiment d'aliénation que je pouvais ressentir dans mon existence. Ça me libérait du sentiment d'être coincé. C'est ça que je voulais dire par là. Ça me vidait d'un monde dans lequel il était difficile de vivre et ça me remplissait d'autres mondes.
Vous évoquez la littérature comme ça tout au long de votre vie, comme une forme de bande sonore. Et on viendra tout à l'heure à cette espèce de Jiminy Cricket que vous avez sur votre épaule et qui s'appelle Janis Joplin. Mais parlons du titre anglais qui, en français, c'est « Mon refuge et mon orage ». Mais en anglais, c'est « Mother Mary comes to me », c'est-à-dire il y a quelque chose des Beatles quoi, qui sonne quand on entend ce titre-là en anglais. Est-ce que vous mettriez peut-être les deux continents au même niveau dans votre vie artistique, la place du flux musical et la place du flux littéraire?
Je peux parler du titre. Quand on lit le livre, on peut comprendre que j'ai grandi donc dans cette société très étriquée, très conservatrice. Et ma mère, qui s'était mariée en dehors de la communauté, était rentrée divorcée avec deux enfants, donc elle n'a jamais été acceptée par la population autour d'elle. On nous disait que la sécurité, que le confort que les autres enfants, auxquels les autres enfants pouvaient prétendre, n'était pas pour nous.
Et
quand on lit des choses sur les petits villages, quand on entend parler du cinéma, par exemple, nous, on n'en avait pas de cinéma, donc j'en entendais parler, et en même temps, c'était un endroit aussi terrifiant quand on était une femme. Et puis, un jour, petite, j'ai regardé un film sur Woodstock, et ça a changé ma vie. Bien sûr, c'est seulement des années plus, c'était des années après. Les choses nous arrivent avec des années de retard. Mais en un sens, c'est le rock'n'roll qui m'a sauvée. Et quand je subissais la violence, dans ma tête, j'entendais les Beatles. Ma mère s'appelle Marie, elle appartient à cette communauté chrétienne syrienne très conservatrice du Kerala. Et quand j'écrivais mon livre, le titre m'est venu, il s'est posé sur mon poignet comme un papillon, ça n'aurait pas pu être un autre titre. Mais à cette période de l'histoire, c'est aussi ce que j'explique dans le livre, à ce moment-là, il ne s'agit pas que d'une relation mère-fille, il s'agit aussi d'un pays et de deux femmes qui avaient une existence très publique et une relation aussi très publique. Ça parle aussi de ça, d'un pays qui se tourne aujourd'hui vers le fascisme. Et au moment où nous sommes, alors que je suis face à un gouvernement qui dit que les hindous doivent passer en premier, que l'Inde doit être un pays hindou, qu'on peut lyncher et tuer les musulmans et brûler les églises, j'ai l'habitude d'être traité d'antinationaliste, de traîtresse, depuis très longtemps. Je suis critiquée, j'ai pris des positions publiques et on me dit que je ne suis pas une vraie hindoue, c'est vrai. Et donc, quelque part, donner ce titre à mon livre et de le voir numéro un des ventes devant tous les autres types de livres, tous les autres genres, c'est un plaisir secret pour moi dans mon propre pays.
Secret ou pas tout à fait secret, Arundhati Roy, justement. Peut-être pour tenir l'espèce de bande-son qu'est en effet la littérature dans ce livre-là qui, comme vous le dites, ne parle pas du tout uniquement de la relation d'une mère à sa fille et d'une fille à sa mère, mais aussi de la place qu'occupe l'écriture, la vocation d'écrire, la
la vocation de réaliser des films, l'amitié, la liberté, bon, il y a tout ça. Et à la toute fin, on est face à la pierre tombale de votre mère et à ce qui est gravé dessus, et il y a un clin d'œil à la littérature puisqu'il y a marqué « Beloved », ce qui veut dire à la fois que peut-être cette femme a été aimée et on lui souhaite, mais qui est aussi le titre d'un immense roman de Toni Morrison. Ça veut dire que jusqu'au moment rituel les plus fondamentaux de l'existence, Arundhati Roy, la littérature, elle est là. Elle est là pour faire un clin d'œil.
Literature is always there.
La littérature est toujours là.
The most fundamental
background. La littérature, c'est le socle le plus fondamental de tout ce que je suis, de ma façon de penser. Oui, parce que ma mère avait été en conflit avec l'Église. On ne savait pas vraiment où l'enterrer. Et il a fallu que j'imagine moi-même sa tombe. En tant qu'architecte, je me suis dit que je voulais plutôt aller vers le jardin que vers le lieu de deuil. Et tout près d'un petit point d'eau avec des grenouilles, des fleurs, et cette référence à Toni Morrison, bien sûr, Beloved. Même si la raison pour laquelle ce livre s'appelle comme ça est très différente de la raison pour laquelle moi j'ai utilisé ce mot sur le jardin et non la tombe de ma mère. Mais il y a un sous-titre aussi, rêveuse, guerrière, enseignante. L'idée, c'était de ne pas écrire qu'elle avait été mère, épouse, parce que ce n'était pas pour ça qu'elle s'était battue. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques jours, j'ai beaucoup évoqué le fait que les gens me demandent de quels outils dispose la fiction, que peut la fiction à l'époque des fake news, à l'époque de l'intelligence artificielle, des fausses vidéos. Et je demande toujours quel est le lien, parce que ça semble supposer que la fiction n'est pas la vérité. Mais Fellini a dit la fiction est la vérité. Et pour moi, au bout du compte, dans la période que nous vivons, dans un monde où plus personne ne peut se mettre d'accord sur les faits, il y a une forme de convergence entre la littérature et la musique. Parce que ce à quoi on peut se fier en littérature, c'est la même chose que ce qu'on entend dans la musique. On entend une note et on sait si elle est juste. On sait si elle est vraie, si elle sonne juste. Et j'ai commencé à penser à la littérature de la même façon. Ce n'est pas un ensemble de faits, c'est une série de notes. Une série de notes à laquelle on se fie et qu'on aime et qu'on chante.
Oui, et peut-être qu'on s'y fie et qu'on l'aime en fonction de sa justesse. Pour reprendre un mot musical à Arundhati Roy, c'est que peut-être il n'est pas tellement question en fiction de rapport à la vérité ou aux faits, mais de rapport à la justesse. Et c'est pour ça qu'à mon avis, votre texte « Mon refuge et mon orage » est un texte d'une très grande... bouleversante pour cette question-là, pour une question de justesse. Vous écrivez d'ailleurs que nous sommes composés d'une soupe vivante de mémoire et d'imagination. C'est bien dire que la question de la vérité, elle est presque out de l'idée d'une identité qu'on pourrait raconter dans un livre.
Yeah, I mean, it's truth, not as fact. I don't think we should.
Quand on dit vérité, je ne parle pas de fait. Je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée que la vérité existe, mais la vérité, ce n'est pas forcément un ensemble de faits. Ça peut être aussi un ensemble de ressentis. Ça peut être aussi des faits qui sont interprétés de façon à rendre justement les sentiments, les ressentis, juste vrais. Je parle de ça dans le livre, de ce mélange de souvenirs et d'imaginaire, parce que quand j'ai écrit le Dieu des petites choses, ma mère, qui était très gravement asthmatique et qui s'inquiétait énormément de ce dont ce livre allait parler, elle s'est fait hospitaliser quand le livre est paru. Ensuite, elle l'a lu à plusieurs reprises et elle s'est rendue compte que ça va, ce n'était pas justement l'exposé des faits. Elle m'a invitée à venir et elle voulait me poser des questions sur un chapitre en particulier. Il y a des jumeaux dans le Dieu des petites choses qui ont 7 ans et ils se souviennent des disputes entre leurs parents. Ils avaient l'impression que leurs parents devenaient des véritables géants. et qu'ils se relançaient, les enfants, en disant « Tiens, toi, garde-les, moi, je n'en veux plus. Non, toi, garde-les. » Ma mère m'a appelée à son chevet, à l'hôpital, et elle m'a dit « Comment est-ce que tu te souviens de ça ? T'étais trop petite pour t'en souvenir. » J'ai dit « Mais non, ce n'est pas un souvenir, c'est de la fiction. » Et elle m'a répondu « Pas du tout, ce n'est pas de la fiction. » Et c'est là que j'ai compris que nous sommes tous un mélange, cette soupe vivante de souvenirs et de choses imaginées. Et parfois, nous ne sommes pas les meilleurs arbitres pour savoir qu'est-ce qui est quoi. Alors j'ai dit « Il faut lire ce livre comme on lit un roman. » Mais pour moi, un roman, c'est la plus haute forme de vérité qui existe, c'est une forme de prière. Les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, toutes les personnes qui doivent catégoriser les livres pour les ranger sur tel ou tel rayonnage, ils ont ces catégories de genre. Et dans ces catégories, mon livre relève des mémoires, de l'autobiographie. Mais pour moi, des mémoires, c'est une chose, mais des mémoires de romanciers, de romancières, c'est encore autre chose. Parce que quand on est romancier ou romancière, l'imaginaire est parfois plus réel que les personnes réelles. Pour moi, les personnages de mes livres sont plus réels que les personnes du monde réel. Il y a une phrase dans Le Dieu des petites choses, ce petit garçon est avec sa mère, qui lui demande « Si en rêve tu manges du poisson, est-ce que ça veut dire que tu manges du poisson ?» Que répondra ça ? Je crois que quand on est romancier, on peut dire oui. Quand on est bureaucrate, probablement on dit non.
Ça me fait penser à un rêve que vous racontez, un rêve très perturbant et très beau que vous racontez dans votre livre, Arundhati Roy, où vous êtes un poisson, une main verte mystérieuse vous repêche dans la rivière et vous demande qu'est-ce que vous voulez et vous, en poisson, dites ben juste retournez à l'eau et la main vous relâche dans la rivière, sauf que vous savez, vous, en tant que poisson, qu'on ne nage jamais deux fois dans la même eau et qu'il faut donc tout réapprendre depuis le début. Puisque vous parlez de la littérature comme de la musique, on va écouter cette chanson de Janis Joplin et juste après ça, on parlera de votre livre « Mon refuge et mon orage ».
Public can. Honey, you know I did.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Qu'est-ce qu'aurait fait Janis Joplin à ma place? Vous demandez-vous dans votre dernier livre, Arundhati Roy, où il lui arrive de tenir le rôle d'un ange dégingandé sur votre épaule. Votre mère, à qui de très nombreuses pages de ce livre sont consacrées, avait de l'asthme. Vous décrivez comment le sifflement de sa respiration empêchée semblait adresser une question à la petite fille que vous étiez alors et qui demandait « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et votre réponse muette était toujours la même « Je vais respirer pour toi, maman. » Alors, vous respiriez pour celle qui disait vous aimer pour deux. La figure du père étant plutôt absente de cette histoire, mais pas les hommes, ni les amants, ni l'art, ni l'écriture, ni les amitiés, ni les engagements. Au cœur du livre, donc, on trouve cette mère que vous appelez Mrs. Roy, poison et remède à la fois, refuge et orage, rêveuse, guerrière et enseignante, comme il y a donc dans son jardin funéraire, mais au cœur du livre surtout, il y a la vie. Vous êtes avec nous, Arundhati Roy, pour parler de votre livre « Mon refuge et mon orage », c'est la traduction française du titre, pour ce récit traduit par Irène Margy aux éditions Gallimard. Puisque je dis qu'il y a elle, on va commencer par un extrait du texte où vous la décrivez. J'ai quitté ma mère non parce que je ne l'aimais pas, mais pour pouvoir continuer à l'aimer. Rester aurait rendu la chose impossible. Après mon départ, je ne l'ai pas vue. Je ne lui ai pas parlé, des années durant. Elle n'a jamais cherché à me joindre. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais partie. À quoi bon, puisque nous le savions l'une comme l'autre. Après notre fragile tentative de retrouvailles, je suis retournée la voir régulièrement, en adulte indépendante, architecte qualifiée, directrice artistique, écrivaine, mais avant tout en femme qui observait avec amour, admiration et une bonne mesure d'inquiétude une autre femme pour ses grandes qualités comme pour leur contrepartie négative. Dans cette petite ville de province étouffante du sud de l'Inde où les femmes n'avaient alors d'autre droit que celui de pratiquer ou d'affecter une vertu mièvre, ma mère se comportait avec l'irascibilité d'un gangster. Je la voyais, dans un abandon de tout son être, déchaîner son génie, son excentricité, sa bonté radicale, son courage militant, sa brutalité, sa générosité, sa cruauté, sa tyrannie, son sens des affaires, ses humeurs sauvages et imprévisibles sur notre minuscule société de chrétiens de rite syriaque cloisonnés. Isolée par son éducation et sa richesse relative, de la violence houleuse et de la pauvreté qui minait le reste du pays. Je l'observais, dégageant de l'espace pour la totalité de sa personne, de ses personnes, dans ce petit monde. C'était un miracle, ni plus ni moins, un phénomène à la fois terrifiant et merveilleux. Lorsque j'ai su me protéger un peu de la mesquinerie dévastatrice qui l'accompagnait, sa rage contre le fait d'être mère m'a même fascinée, comme si elle avait été la mère de quelqu'un d'autre, et comme si je n'avais pas été moi, mais cet autre sur qui portait sa fureur. On pourrait, Arundhati Roy, s'arrêter sur quasiment tous les mots de ce que je viens de lire comme extrait de votre livre. On est au tout début de votre livre. Mais peut-être je vais m'arrêter sur l'idée que vous décrivez cette femme comme quelqu'un qui créait de l'espace pour être plusieurs personnes, pour abriter plusieurs personnes. Et la notion d'espace, de topographie, de géographie, de votre mère presque comme un espace théorique qu'on peut arpenter, avec des endroits où il est doux de s'arrêter et des endroits où on peut crever dans l'abîme d'une montagne, c'est presque une géographie finalement.
I think, you know, the interesting thing about
this. Je crois ce qu'il y a d'intéressant là-dedans pour moi. C'est que quand on lit le livre, on se rend compte que mon frère avait un point de vue très différent sur cette femme. Il était beaucoup plus dur, il avait un regard beaucoup plus négatif sur elle. Parce que les expériences, évidemment, de chacun sont différentes, mais aussi parce que peut-être pour un homme, voir une femme se battre pour cet espace, ce n'est pas quelque chose d'aussi extraordinaire que quand c'est une femme qui assiste à ça. Je crois que ce qu'il y a d'important quand on devient adulte, moi je suis devenue adulte très vite, c'est que je l'ai observée sans les attentes qu'une fille peut avoir vis-à-vis de sa mère. Et j'ai le sentiment que les femmes qui sont mères ont le droit aussi d'être davantage que ça, d'être plus que seulement mères. Elle avait un passé, elle avait un présent. Elle devait affronter cette tâche si difficile de vivre dans un endroit très conservateur, de prendre soin des enfants des autres et d'être un gangster très différent des autres mères. Ces étiquettes qu'elle portait et toute cette entreprise qu'elle menait avait aussi un côté sombre. Et ce côté sombre, il était redirigé contre mon frère et moi. Et même quand j'étais dans cette obscurité, je comprenais que ces batailles, elle les menait aussi pour moi en tant que femme. Pas en tant que sa fille, mais en tant que femme. Donc, c'était à moi de recevoir ce cadeau qu'elle me faisait. Même quand elle me brisait, je pouvais refuser d'être brisée et me saisir de ce cadeau. Et c'est ce que j'ai fait.
Ce livre-là, on sent que c'est aussi un trajet. Moi, je l'ai vraiment aussi beaucoup vécu comme je parle d'aller-retour. Vous évoquez le moment où vous la quittez pour continuer à l'aimer, le moment où vous la retrouvez, le moment d'écriture qui est une manière de retourner vers elle d'une certaine manière. Mais on sent aussi qu'il a fallu du temps de vie pour pouvoir l'écrire, Arundhati Roy, ce livre-là. Je voudrais qu'on écoute Nathalie Sarraute, grande romancière française, ici dans une archive de 1977, parler de l'étrange forme de narcissisme qu'il faut pour parvenir à produire un texte juste sur son enfance.
Je n'ai jamais pensé, non seulement que je pourrais jamais écrire une autobiographie, ça me paraît tout à fait impossible, mais même parler de moi comme ça, ça, j'ai l'impression de quelque chose, de jouer à un jeu auquel je ne suis pas habituée. Et d'un certain côté, ça m'amuse et même peut-être ça me fait du bien parce que je pense très très rarement à moi-même comme ça, à la fois en tant que personnage. Je n'évoque pas tellement souvent des souvenirs d'enfance et surtout quand je les évoque, ils sont comme un peu détachés de moi. Il me semble que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Et je ne réfléchis pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup l'habitude de me regarder comme ça. C'est une espèce de manque de narcissisme qui, d'une certaine façon, je crois, n'est pas tellement bon. Il est très bon d'en avoir une certaine dose. Pas trop, mais enfin, une certaine dose. Mais je pense qu'on se rattrape toujours et que certainement, mon narcissisme doit se porter ailleurs. On dit que tous les écrivains le sont, et il se porte ailleurs probablement que sur des détails biographiques de ma vie, de ce qui a pu m'arriver.
Nathalie Sarraute qui dit finalement, il est assez rare que je pense à moi, et je suis obligée de le faire avec un certain détachement. Comment est-ce que vous avez trouvé le bon endroit, la bonne distance, Arundhati Roy, pour écrire ce livre-là?
Je suis d'accord avec elle. Je crois que ce n'est pas uniquement quand on écrit des mémoires ou une autobiographie. Tout artiste qui crée quelque chose fait acte de narcissisme d'une façon ou d'une autre. C'est un mot un peu dur, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui convient. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas résister. Souvent, je n'ai pas le choix quand j'écris. C'est comme si quelque chose dans mon corps me poussait à le faire. Je le répète souvent, ce sont les livres qui vous choisissent, pas vous qui choisissez le livre. Et on ne peut pas s'en empêcher. Tout ce que j'écris, c'est parce que je ne peux pas me retenir de le faire. Mais pour celui-ci en particulier, pour ce livre, je ne crois pas que ce soit mal d'écrire quelque chose de très intime sur la relation d'une mère, d'une fille, la maison où elles vivent et la façon dont leur relation est complètement circonscrite par cette domesticité, que ce soit au sein d'une famille ou juste entre elles. Mais nous, on était deux femmes très publiques, donc ces affrontements ne nous appartenaient pas à nous seules, ni à elles, ni à moi. Ces combats ne nous appartenaient pas qu'à nous. C'était très important pour moi. Pour moi, c'était presque une façon d'essayer d'écrire un reportage sur un sujet sur lequel il n'y a jamais de reportage. Les reportages, normalement, parlent du monde extérieur, ils parlent de la guerre, ils parlent de choses comme ça. Là, il s'agissait de faire un reportage où il n'y ait plus de différence entre le public et le privé, parce que ni elle ni moi n'avions réellement de chez nous dans le monde. Et les choses les plus intimes étaient toujours négocier en public, pour elle comme pour moi. Et donc, elle s'est battue dans cette petite ville. Moi, j'ai vécu et écrit sur des sujets qui dépassaient cette petite ville, mais j'avais vraiment le sentiment que Mrs. Roy, ma mère, je l'appelais comme ça, hein, Mrs. Roy, parce qu'elle était directrice d'école et qu'elle ne voulait pas que les autres enfants aient le sentiment que mon frère et moi, on était privilégiés. Donc on devait l'appeler aussi Mrs. Roy, comme eux. Et c'est comme ça que je pense à elle. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'elle appartenait à la littérature et à l'histoire, qu'elle avait sa place dans ces pages. Donc je voulais vraiment partager son souvenir et montrer qu'il existe des femmes comme elle. Une femme vraiment inhabituelle, vraiment originale, unique, et qui vivait dans une société et qui menait des combats au-delà d'elle-même. Et en même temps, sans être non plus cette militante complètement désintéressée et pure, et c'est aussi quelque chose qui me plaisait chez elle. Elle se battait, elle a monté cette école magnifique, elle a remis en cause le droit de succession et son impact sur les femmes, les règles de l'héritage pour les femmes. Et il y a une partie du livre où j'explique à quel point elle m'a appris à penser et ensuite elle a été enragée contre ma façon de penser. Elle m'a appris à écrire et ensuite elle était en colère de l'écrivaine que j'étais. Elle m'a appris à être libre et ensuite elle était en colère parce que j'étais libre.
C'est
quelque chose auquel je crois vraiment. Ce livre ne parle pas uniquement de ma relation avec elle, il parle d'être complètement hors de son environnement, de se retrouver seule, sans famille, sans protection, et de se créer un autre monde où on définit complètement différemment ce que c'est que la protection, ce que c'est qu'une relation, ce que c'est qu'une famille sans la hiérarchie attendue par la société. Quelles sont ces façons de vivre qui sont à la fois politiques et extrêmement intimes. Je voulais donner à voir ce côté imprévisible, ce côté gangster, et mon incapacité à me faire une opinion définie sur ma mère. Et je voulais partager ça avec les lecteurs et j'espère qu'à la fin de ce livre, vous n'aurez pas non plus d'opinion prédéfinie.
Absolument, il y a une très grande ambivalence qui reste et d'ailleurs souvent vous avancez pour la décrire avec des termes contraires à Rhonda Tiroy. Et plus le livre avançait et plus je me disais c'est presque un espace, cette mère qui devient, je le disais, oui, un espace qu'on peut arpenter, voire un espace théorique, voire l'espace même de l'écriture, puisque vous racontez beaucoup l'étrange place qu'elle a dans votre vocation d'écrivaine, de romancière. Et je me suis dit, est-ce que écrire sur votre vocation d'écriture, c'est pas écrire sur votre mère et inversement? Mais vous dites, finalement, je voulais aussi montrer ce qui répondait à cette relation première et si difficile et contrastée, avec ma mère. Et vous évoquez les amitiés, les rencontres amoureuses, les rencontres artistiques, les tripes aussi sous drogue, la musique, le rapport à la ville, comme si elle vous avait paradoxalement jeté dans le monde, quoi.
She threw me out, I threw myself out.
Je me suis, oui, jetée dehors dans le monde. Moi-même, elle l'a fait, je me suis fait... Je suis partie. Mon frère est resté et moi, je suis partie. Pas par amertume, pas par colère, mais parce que j'étais en quête de bonheur, j'étais en quête d'une liberté différente. Et ce qui s'est passé, c'est un thème récurrent dans le livre, c'est que très tôt, je pense que la plupart des gens, peut-être pas tout le monde, mais la plupart des gens voient leur mère comme un refuge. Et pour moi, c'était l'endroit le plus dangereux. Donc il y a ce thème qui revient en permanence sur la façon, justement, dont l'endroit le plus sûr peut être aussi l'endroit le plus dangereux. Et quand c'est pas le cas, c'est moi qui le fais, parce que je ne me fie pas, justement, à la sécurité. Je n'ai pas confiance, donc je passe mon temps à saboter cette sécurité, parce que je ne peux pas respirer dans un espace qui semble m'offrir cette protection, me protéger du monde, m'abriter. C'est une forme de pathologie. Je crois, quand on a une enfance comme la mienne, on cherche en permanence justement l'insécurité.
Vous dites même
et des personnes qui ne sont pas sûres, justement.
Vous dites même dans un passage très précis et très bouleversant, et ça aussi c'est très important, la manière de précision que vous avez, Arunda Tiroy. À chaque fois qu'on me célèbre, à chaque fois qu'on m'applaudit, même à chaque fois qu'on me remet un prix, j'ai l'impression qu'on est en train de battre quelqu'un d'autre dans l'autre pièce. Et vous faites référence évidemment à des souvenirs d'enfance, mais finalement vous dites, est-ce que c'est pas toujours le cas? Est-ce que c'est pas ça le monde? Est-ce que pendant qu'on me célèbre, on n'est pas en train de tuer et battre d'autres dans d'autres pièces?
Oui, c'est un passage où je parle de mon frère et moi, donc nous qui avions d'abord été élèves de ma mère dans l'école de ma mère, et puis ensuite on avait dû aller dans une autre école parce qu'il n'y avait pas encore les classes de notre niveau dans l'école de ma mère. Donc quand on rentrait de notre collège dans l'école de ma mère, qui était en même temps notre foyer, hein, on y vivait, nos bulletins de notes arrivaient, et un soir, mon frère qui avait un an et demi plus que moi, on était encore éveillés quand ma mère est venue le chercher dans la chambre. Elle l'a emmené dans la sienne et je l'ai regardé par le trou de la serrure, je les ai suivis et je l'ai vu le frapper avec une règle en bois jusqu'à ce qu'elle se brise et le gronder en chuchotant parce qu'il y avait d'autres enfants, en disant: mon fils ne peut pas revenir avec un bulletin d'élève moyen. Et lui ne réagissait pas. Et c'est pour ça qu'elle est devenue dingue aussi et qu'elle l'a battu jusqu'à briser sa règle. Il est revenu au lit. Il savait que j'étais éveillée. Je savais qu'il était éveillé. On n'en a jamais parlé. On n'en parlait pas du tout à l'époque. Et on disait simplement « elle » pour parler de notre mère. Ce soir-là, on n'a rien dit. Et le lendemain matin, ma mère est venue me chercher, elle m'a fait un gros câlin et elle m'a dit: ton bulletin est brillant, bravo. Et j'avais honte. Et c'est ce que je répète depuis. À chaque fois qu'on me loue, qu'on me célèbre, j'ai le sentiment que quelqu'un qui se tait est en train d'être frappé dans la pièce d'à côté. Et quand on regarde ce que j'écris, ça a été vraiment le fondement de tout ce que je fais, en fait, de tout ce que j'ai fait. Je sais que l'histoire, c'est pas moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se tait et qui est en train d'être passé à tabac dans la pièce d'à côté. Qu'il s'agisse des minorités en Inde, qu'il s'agisse des personnes à Gaza, il y a toujours autre chose qui se passe en même temps, une autre histoire. Et en tant qu'écrivain, écrivaine, si on ne peut pas voir ça, je ne sais pas quel genre d'écrivaine on peut être.
Ce qui me fait vraiment penser ce que vous dites à la manière de penser, d'être au monde et d'écrire d'un auteur dont vous parlez, parce que vous évoquez son amitié, c'est John Berger. Lui aussi, il avait la pensée très puissante de n'être pas au centre du monde et qu'il fallait écouter les autres dans un drôle de contrat avec le monde et avec les lecteurs à venir. On l'écoute ici dans une archive.
Si vous êtes un raconteur, vous êtes toujours en train d'écouter et de suivre ce que la vie livre à vous, à vos yeux, à vos oreilles, à votre nez. Peut-être tout est une question d'imaginer le lecteur ou la lectrice. Toute activité d'écriture est une approche à le lecteur. Et avec cette approche, il y a une invitation ou peut-être une demande de collaboration que écrivain et lecteur établit une espèce de conspiracy entre eux pour établir un point où ils regardent le monde ensemble. Et cette conspiracy a beaucoup à faire avec ce qui n'est pas dit.
La voix si belle, toujours si belle, de John Berger dans une archive de 2014. Il est au micro de Laura Adler pour l'émission Hors-Champ. Il passe à la fin et de la même manière que Janis Joplin passe comme ça, comme un ruisseau vif, bah lui aussi il passe comme un ruisseau, peut-être un peu moins vif, peut-être un peu plus calme dans votre histoire, Arundhati Roy. Mais il parle à la fois de l'écriture comme d'une écoute, et vous écrivez qu'il aurait pu écrire un bouquin qui s'appelle L'écoute de l'écoute. Mais il dit aussi qu'il y a une forme de conspiration ou d'alliance qu'on pourrait faire avec les lecteurs et les lectrices. Sur ces deux thèmes-là, qu'auriez-vous à dire?
Yeah, I think there's a essay that I wrote.
Il y a un essai que j'ai écrit.
I was talking about the political writing.
Dans laquelle je parlais des textes politiques que j'ai rédigés.
The writer and the reader, we build a little shelter for ourselves.
Et j'expliquais que c'était une façon de construire un petit abri pour l'auteur et le lecteur, et quand cet abri est réduit à néant, quand il est en ruine, on le reconstruit, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, à l'époque où nous sommes en Inde, il y a une énorme propagande de la part du gouvernement sur les intellectuels qui seraient une menace bien pire que celle des terroristes. On parle de moi comme d'une terroriste de la narration, terroriste du récit, parce que je ne suis pas d'accord avec leur façon de déformer le récit. Et parce que je ne suis pas non plus une femme politique et que je ne cherche pas à me faire élire. Je ne cherche pas la popularité. Nous, les écrivains, nous sommes des gens qui parfois acceptent d'être seuls quand ils disent quelque chose et le disent quand même. Et puis, il y a un autre aspect à l'écriture, que ce soit pour ce livre ou pour Le Dieu des petits riens ou le ministère du bonheur suprême. Mon approche est un peu différente. Je ne pense pas au lecteur. Je ne pense pas à cette alliance avec le lecteur ou la lectrice. Si je pense à quelque chose, c'est plutôt à écrire une lettre d'amour, une lettre à quelqu'un que j'aime. Je ne pense pas à un lecteur lambda. Parce que pour moi, ça limiterait ma liberté. Je n'essaie pas d'obtenir l'approbation de qui que ce soit. J'essaie seulement de dire à quelqu'un que j'aime, regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est passé. Je crois que ça vient de mon enfance, comme dans Le Dieu des petits riens, ce petit endroit du sud du Kerala, cette communauté dont personne ne sait qu'elle existe. Et quand on arrive à Delhi, c'est une autre langue, c'est presque un autre pays. Là où j'ai grandi, les gens qui étaient mes amis n'avaient aucune idée de ce que j'allais devenir, et les gens avec qui j'ai vécu après, ceux qui sont devenus mes amis, n'avaient aucune idée de l'endroit d'où je venais, de ma langue. C'est presque comme écrire des marges, s'adresser à un amant, un ami qui n'a jamais connu cet endroit d'où vous venez. Alors là, il faut construire un univers, un monde, une architecture de mots destinée à une personne qu'on aime. Et puis bon, bah, cette personne qu'on aime va devenir des millions de lecteurs, mais ça, c'est secondaire.
Mais c'est étonnant que vous parliez de cette architecture qui est votre formation première, Arundhati Roy. Et peut-être que ce qu'on pourrait qualifier, pour parler vraiment de, je sais pas, la langue ou la puissance de la langue de ce livre-là, Mon refuge et mon orage, c'est l'idée de la liberté. Je sais plus du tout à quelle page vous dites pourquoi je me battais, point, la liberté peut-être. Comme si c'était au passage que vous vous rendiez compte que oui, c'est ça qui vous anime, oui, c'est ça qui vous fait battre le cœur, oui, écrire, penser à votre mère, avoir un amant, avoir un mari, avoir des amis, que la question de la liberté, elle est première.
Oh, that's amazing that you noticed that.
C'est formidable que vous ayez remarqué cela, parce que parfois, cette quête de la liberté, elle m'a poussée à détruire des choses très belles. Mais ça a toujours compté pour moi avant toute chose. Quitter ma mère, quitter un homme, puis l'autre. Ce qu'il y a de drôle, c'est que ça n'a jamais été par manque d'amour. Parfois, c'est parce qu'il y avait trop d'amour. Cette sensation d'être protégé, à l'abri, d'être enfermé, de ne plus pouvoir respirer. Même quand vous avez évoqué ce rêve tout à l'heure de la main verte qui vient me prendre moi poisson, c'était juste après avoir gagné le Booker Prize, c'était la nuit qui suivait la remise de prix, et encore une fois, ce prix, évidemment, c'est formidable, je ne regrette pas de l'avoir gagné, mais immédiatement, on a l'impression d'être piégé, on va être enfermé, et donc il faut sortir, il faut absolument sortir. Et très vite après, la politique en Inde a commencé à changer de façon dramatique. Et je savais que pour avoir l'espace où dire ce que je voulais dire, il fallait que je me libère justement de ce privilège, de cette sécurité, de la célébrité, et que j'aille vers un endroit dangereux pour préserver l'intégrité de mon écriture. Pour moi, la première prison qu'une écrivaine peut se créer, c'est celle qu'elle se crée pour elle-même. L'État, s'il vous met en prison, c'est secondaire. Mais par contre, le fait de se mettre soi-même en prison, c'est ça qui arrive en premier. Et j'essaie toujours de garder un pied dehors, de garder un pied dans la porte pour empêcher justement que la porte de prison se ferme.
On va écouter la voix de Brinda, auditrice du Book Club. Elle vous a lu et elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Arundhati Roy. J'ai lu Mon refuge et mon orage. Je crois que ce qui m'a époustouflée, c'est cette clairvoyance avec laquelle vous analysez cette relation tempétueuse et complexe à la fois, mais aussi le fait que cette relation difficile, elle devient pour vous moteur. Et on se rend compte à quel point ce qu'a été votre mère a infusé en vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que votre mère a été comme un modèle en tant que femme et que, en quelque sorte, c'est elle qui a guidé vos pas ? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Brinda, pour cette lecture et pour cette question qu'on va s'empresser de nuancer, j'imagine, Arundhati Roy. Un modèle, dit Brinda.
No, I wouldn't say she was a role model.
Je ne dirais pas que c'était un modèle. Il y avait des choses chez elle que j'admirais. Et puis il y avait des choses qui étaient le contraire d'un modèle à suivre. Parfois, je crois que j'ai peut-être fait trop d'efforts pour ne pas être comme elle. Et c'était peut-être pas toujours une bonne chose. C'était vraiment un anti-modèle aussi, en quelque sorte. Mais en lisant le livre, Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses, même politiquement, sur lesquelles j'étais profondément en désaccord avec elle. Par exemple, je suis sûre que vous avez tous entendu parler de ça, mais il y a des féministes progressistes qui ne reconnaissent pas l'existence des privilèges de classe, des privilèges de caste, et qui peuvent être extrêmement conservatrices par certains aspects. Donc je ne dirais pas qu'elle était mon modèle, mais elle a eu une influence énorme, bien évidemment, sur la personne que je suis aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a quelque chose de la... je sais pas, d'un virage dans votre œuvre littéraire après avoir écrit ce livre-là, Arundhati Roy, un virage que vous sentiriez venir après que, je sais pas, au temps de... On a parlé de votre rapport à la vérité, mais il y a quelque chose de l'honnêteté qui résonne fort dans ce livre-là. Est-ce que vous pensez que votre écriture pourrait s'en trouver modifiée?
On n'a jamais eu l'occasion de parler de mon père. Je ne l'ai connu qu'à l'âge de 25 ans. Et quand mon livre est sorti, mon frère a dit « Bon, je sais que tout le monde est là pour parler de Mrs. Roy, mais ma sœur est aussi la fille de mon père. Elle rit comme lui, elle lui ressemble. » Mon père était alcoolique et aussi quelqu'un de très charmant. Mais ma mère l'appelait homme de rien. Mais je sais qu'il y a une part de moi qui lui ressemble. Ou peut-être que je ressemble aussi à mes chiens. Il y a une partie de moi qui est capable de ne faire absolument rien, de rester à regarder dans le vague, et de ne pas du tout savoir ce qui va lui arriver le mois prochain, l'année prochaine. J'en suis précisément à cette étape, là, maintenant. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer après. Et je ne veux même pas savoir.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on parle littérature jeunesse et c'est avec vous, Raphaël Bott, qu'on le fait aujourd'hui. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Vous avez un gros coup de cœur à partager, c'est un roman plutôt pour les adolescents aujourd'hui dont vous parlez.
Cette semaine, demain même pour être encore plus précise, sort un roman que j'ai énormément aimé. Il s'intitule « La nuit bleue » et il est signé par Anaïs Sautier. Parfois, en lisant un roman ado, je me dis que les problématiques sont un peu loin de moi, mais que vraiment j'aurais adoré lire ça adolescente. Parfois, je me dis que c'est raccord avec ce que j'imagine être les problématiques actuelles. Bref, je tâtonne un peu. Et là, Marie, nous sommes pile dans ce cas de figure passionnant, celui où on ne se dit rien, où on ne cherche pas vraiment à savoir pour qui c'est. C'est pour moi, c'est pour les adolescents, c'est pour vous, c'est pour qui veut.
Du coup, on a hyper envie de vous croire, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur ce roman?
On commence par les premières lignes du prologue. 12 juillet, établissement pénitentiaire pour mineurs, la Valentine. C'est la dernière pizza de la chienneté. Tous les jours de la pizza, à chaque repas, et du pain mou, et blanc, repas de piteux. Je suis tombée pour violence aggravée sur mineur, mais comme je suis moi-même mineur, j'ai pris que 4 mois. Le décor et la langue sont posés, le roman s'ouvre dans une cour de prison, celui qui parle c'est Psycho, un méchant, un vrai, un cruel, ici le danger rôde, c'est la dernière pizza de la chienneté, la phrase cogne, pose un ton et une certaine façon d'envisager, voire de craindre le futur.
Et alors justement dans le futur, qu'est-ce qu'il va y avoir après cette dernière pizza, Raphaël?
Et bien juste après, on rencontre Cervelle. Depuis que sa grand-mère est morte, elle vit seule dans un appartement, la mère ne donne plus signe de vie, elle rejoint chaque jour le lycée tiers de Marseille au milieu des blancs, des bourgeois. En vrai, elle s'appelle Sophia et le surnom de Cervelle lui a été donné par son frère pour faire autorité, parce que qui embêterait une fille intelligente? Elle est bonne élève et elle rêve de quitter son quartier gangrené par le deal, la misère, le déterminisme. Ici, c'est le réseau, avec un R majuscule, qui fait la loi. Il est dirigé par Vador. Cervelle sait tout ça, elle connaît, elle observe tout. Elle sait qui travaille pour qui. Et quand elle croise Croco, elle sait très bien qu'il a été un temps à coquiner avec le réseau.
Il y a quelques échos avec la grosse actualité dans ce moment, Raphaël. Si je suis bien, c'est un roman qui se déroule avec comme toile de fond le narcotrafic marseillais.
C'est exactement ça. Il y a le quotidien, les planques, les choufs, ces gamins qui guettent pour les dealers, les cadeaux des narcotrafiquants qui achètent à leur manière une paix sociale. Anaïs Sautier décrit toutes ces interactions, ces règles tacites et ce contexte engendre une véritable tension dramatique car au milieu de ce chaos éclot un premier amour qui bouscule tout. Le temps de quelques nuits et de quelques traversées de Marseille, il laisse croire au personnage et au lecteur que c'est possible de sortir de tout ça.
Alors on a entendu tout à l'heure avec cette première phrase qui claque un petit peu du ton et de l'écriture, mais est-ce que vous voulez bien nous en dire davantage?
L'histoire, elle est racontée par trois narrateurs. Donc Psycho, le terrifiant du début, il y a Sophia, il y a Cervelle, dont je vous ai un peu parlé, et puis enfin Farouk, le grand frère qui veille de loin. Le lecteur recueille ces trois prises de parole, leurs mots, leurs peurs, leurs aspirations, et grâce à l'écriture que met en place Anaïs Sautier, on les entend. Le rythme, il est saccadé, il y a quelque chose de musical, de nerveux dans cette langue, c'est poétique, c'est frénétique, et parce que les mots n'arrivent jamais comme un cheveu sur la soupe, il y a un argot, des expressions improbables, des associations d'idées, tout est verve, tout est sonore, tout claque. Et les personnages vivent. Marseille et ce quartier de la Myrte, c'est un quartier qu'elle a inventé, il existe terriblement.
Est-ce que l'autrice, elle a un lien particulier justement
oui,
avec
oui,
la ville de Marseille?
Elle y vit bien sûr, et elle y mène des ateliers, au milieu des ateliers d'écriture entre autres, au milieu d'ados, elle a les deux pieds dans une réalité qu'elle ne cherche ni à édulcorer, ni à caricaturer. Son expérience et sa sensibilité sociale irradient son texte et lui donnent une sacrée belle âme. J'ai découvert cette romancière avec Marseille Bébé, qui est sortie il y a quelques années, mais surtout avec une trilogie, Bande de Boucans. Je vous conseille vraiment de la découvrir, c'est lisible dès 8-9 ans. Et c'est vraiment une ville qui semble l'inspirer. Il y a le vieux port, il y a l'OM, il y a le foot. Il y a aussi de l'humour, parce que Sophia, par exemple, elle a un traumatisme, figurez-vous. C'est celui d'avoir été enfermée dans l'ascenseur, le temps d'un classico mémorable.
Bah ouais.
Et on court après cette jeune fille, on a envie de croire qu'il n'y aura pas de nuit bleue envahie de gyrophares. Anaïs Sautier ne lâche rien, elle se cramponne au destin de ses personnages. Dans ce bourbier, Sophia a un but, faire rire celui qu'elle aime. Et son truc à elle, c'est d'imiter un chien qui mange un lézard. Vous imaginez? Et je peux vous dire une chose...
J'ai hyper envie d'essayer du coup, mais je ferai ça tout à l'heure.
Ben, en tous les cas, je peux vous dire que quand on referme ce roman, on repense à cette imitation, au chien, là, qui mange son lézard. Et après avoir quand même un peu pleuré, eh ben, on rit.
Merci beaucoup Raphaël Bott. La Nuit Bleue, c'est un roman noir, un roman d'amour, donc publié à l'École des Loisirs. Il est lisible à partir de 13 ans environ, par tous. On l'aura compris, moi ça m'a donné très envie. Vous retrouverez toutes ces références sur le site Lecture Jeunesse du Book Club. Ça coûte 15 euros, ça paru à l'École des Loisirs. Merci beaucoup Raphaël, à la semaine prochaine. Vous avez dit dès le début de cette émission, Arunda Tiroy, combien il y avait une sorte de parallèle et plus que ça, de superposition entre le continent de la musique et le continent de la littérature. Tous les jours au Book Club, on joue à un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. Il faudrait qu'un jour on le traduise pour l'international. Mais en tout cas, l'idée, c'est de chercher de la musique partout dans les livres. Et il y en a partout dans vos livres. Et donc, on va se quitter avec un dernier extrait de « Mon refuge et mon orage » paru aux éditions Gallimard, toujours dans la traduction d'Irène Margie. Nous possédions un vieux tourne-disque fabriqué à partir de pièces détachées, dont l'aiguille, comme par magie, revenait au début du disque pour le rejouer à l'infini, sauf intervention de notre part. Nous étions si occupés et tellement défoncés qu'il nous arrivait de ne pas changer de musique plusieurs jours d'affilée. Dans la semaine qui a précédé la soutenance, l'album, avec Gimme Shelter, des Rolling Stones, a tourné en boucle sans interruption. Un extrait de Love in Vain s'est logé dans mon cerveau saturé de dexédrine. Rien ne pouvait l'en expulser. Lors de ma dernière répétition devant mes professeurs, en réponse à une question sur la nouvelle loi d'occupation des sols de Delhi, j'ai chanté à voix haute sans le vouloir « Wow, the blue light was my baby and the red light was my mind ». Heureusement, mes professeurs ont compris que quelque chose avait déraillé. Ils ne se sont pas offusqués et m'ont gentiment envoyé dormir. Quelques jours plus tard, lors de la soutenance, j'ai réussi à me conduire avec un peu plus de dignité. Un des membres du jury a néanmoins remarqué, au bas de ma dernière feuille de dessin, la présence d'un minuscule sous-marin jaune. Il m'a demandé quelle en était la signification. Je lui ai répondu que c'était moi qui m'en allais, voguant.
Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand.
Elle est bien la bande originale de votre livre, franchement, c'est agréable. Merci infiniment à Arundhati Roy d'avoir été avec nous pour parler de votre livre « Mon refuge et mon orage » paru aux éditions Gallimard. C'était un plaisir et c'était un honneur de vous avoir autour de la table du Book Club de France Culture. Merci infiniment à vous, Marguerite Capel, d'avoir été là pour l'interprétariat. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Julie Gascal, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos et Alexandra Laibegovic qui continuent d'animer la conversation sur le compte Instagram du Book Club. Au son, c'était Dalia, à la réalisation... Vivien Demeyer.